Bonjour à toutes et à tous, hein. Je suis très heureux de voir aussi nombreux, hein. Désolé de ne pas avoir suffisamment de places assises, mais on a des contraintes à la fois de sécurité et même tout simplement de superficie. Bah, ravi de vous accueillir aussi nombreux pour ce café scientifique, il y en a un tous les mois pour traiter de sujets d'actualité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez fascinant pour le grand public, nous allons parler du microbiote. Autrefois on parlait de flore intestinale, mais les dernières recherches ont montré que il s'agissait vraiment d'un organisme qui communiquait, un véritable organisme qui pouvait communiquer avec notre cerveau, voire certains parlent d'un deuxième cerveau qui peut agir sur nos émotions et aussi sur notre santé. Donc voilà toutes les questions que nous voulions nous poser aujourd'hui, mais comment des micro-organismes, des bactéries peuvent-elles influencer notre santé et nos émotions, et également en quoi notre régime alimentaire pourrait aussi modifier, jouer sur ce système aussi complexe. Pour en parler, nous avons le plaisir d'inviter Arnaud Carré, qui est maître de conférence, chercheur en psychologie, neuropsychologie, et qui remplace au pied levé Sonia Pélissier. Donc merci infiniment Arnaud d'avoir accepté au dernier moment de venir parmi nous pour nous présenter ce sujet. On garde le fonctionnement habituel pour ceux qui ne connaissent pas les entremidi et sciences. Donc Arnaud aura à peu près une petite trentaine de minutes pour nous présenter les tenants, le cadre de ce sujet, et ensuite on gardera le temps restant pour pouvoir échanger, débattre avec Arnaud Carré. Merci beaucoup et sans plus attendre, je te passe la parole.
Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup Jean-Yves pour ce mot introductif, merci à toi et à Lucie pour l'invitation. Je tiens à excuser ma collègue Sonia Pélissier qui est indisponible et notamment souffrante, qui est une physiologiste dans un laboratoire de psychologie qui s'intéresse à l'axe cerveau-intestin, que vous avez peut-être déjà entendu nommer de cette manière-là. Moi je vous présentais des choses qui effectivement sont aussi des éléments que l'on traite, entre guillemets, auxquels on s'intéresse dans notre laboratoire, le laboratoire interne universitaire de psychologie, personnalité, cognition, changement social, l'IPC2S, partagé entre l'Université Savoie-Mont-Blanc et Grenoble-Alpes. Et je vais colorer un peu plus cette présentation sur mes objets d'études qui sont à la fois similaires et différents de ceux de ma collègue Sonia. Je vous invite, pour celles et ceux qui veulent vraiment aller plus loin et avec un temps plus long aussi sur la thématique de l'axe cerveau-intestin et le microbiote qui est une pièce du puzzle important dans ce domaine-là, je vous invite à voir ou revoir sur la chaîne YouTube de l'Université Savoie-Mont-Blanc l'Amphi pour tous qui avait été fait par ma collègue Sonia. Alors, je vais vous parler de santé et de santé mentale, juste sans rentrer dans des éléments trop longs, mais c'est quoi la santé? Alors, l'Organisation mondiale de la santé nous dit que c'est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Et l'OMS insiste en fait sur une notion importante dans le domaine de la santé, c'est que être en bonne santé, c'est au-delà d'une absence de maladie ou d'infirmité. On n'est pas en bonne santé juste parce qu'on est content de ne pas être malade, c'est parce qu'on va vraiment pouvoir se développer, profiter, surmonter les tracasseries de la vie. Définition qui date en fait qui est en vigueur, qui est régulièrement un petit peu mise à jour, complétée, mais définition qui date de la sortie de la Seconde Guerre mondiale. En fait, on voyait bien qu'il fallait proposer aussi aux populations quelque chose qui va au-delà de la simple absence de maladie. Alors on nous parle notamment d'un état de bien-être. On va utiliser un modèle qui est le modèle biopsychosocial, c'est-à-dire que notre état de santé, notre bonne santé, voire même mieux que ça, notre bien-être, mais évidemment aussi ce qui fait qu'on peut être malade, ce qui va déterminer nos maladies, c'est multifactoriel, c'est des équations extrêmement complexes. S'il y avait quelque chose qui très directement fait effet réponse, je vous prie de croire qu'on aurait déjà réglé plein de problèmes. C'est beaucoup plus complexe que cela. Donc on utilise un modèle complexe avec des grands déterminants qui sont bio-psycho-sociaux. Ça c'est pour la santé en général, et pour la santé mentale en particulier, qui est un peu plus notre objet d'étude dans un laboratoire de psychologie, c'est évidemment quelque chose de très important. Alors la santé mentale, elle est souvent difficile à définir. C'est absolument pas consensuel. Vous savez qu'à l'heure où on entre, enfin, on est supposé entrer, parce qu'il se passe des choses. On est supposé entrer dans un plan gouvernemental qui doit faire de 2025 une grande cause santé mentale. À voir si ce sera effectivement le cas. Mais cette question de la santé mentale, autant elle est vue comme importante et prioritaire pour beaucoup de personnes, pour beaucoup d'entre nous, je l'imagine. Mais en parallèle de ça, on a de grandes difficultés à définir ce qu'est la santé mentale et c'est pas tout à fait consensuel. Alors la santé mentale, souvent, on la présente sous trois dimensions. Vous avez le bien-être, une dimension positive de la santé mentale, c'est-à-dire que être en bonne santé mentale, c'est pas juste se dire j'ai pas de dépression, j'ai pas de trouble anxieux, j'ai pas de trouble du comportement alimentaire. Vous voyez, c'est pas juste fonctionner par exclusion des troubles. C'est à nouveau aller au-delà de l'absence de maladie. Mais la santé mentale, c'est, aux côtés de ces aspects positifs et du bien-être, c'est évidemment les troubles psychiques caractérisés, c'est les maladies diagnostiquées. Je viens d'en citer quelques-unes. On parle des troubles dépressifs, on parle de plusieurs troubles anxieux, on va parler de troubles addictifs et liés à la consommation de substances. Là, c'est finalement assez clair. Mais il y a un entre-deux important, c'est la détresse et les difficultés psychologiques intermédiaires qui ne sont pas des maladies, qui ne sont évidemment pas des états de bien-être et qui représentent un enjeu majeur en termes de prévention parce que il ne faut pas attendre qu'un diagnostic soit établi pour qu'on agisse sur l'état de santé des personnes. C'est quelque chose que l'on connaît extrêmement bien dans le champ des maladies cardiovasculaires, dans le champ des cancers. On n'attend pas d'avoir un cancer en stade terminal ou d'avoir une insuffisance cardiaque terminale pour rencontrer les spécialistes du domaine, normalement. C'est la même chose en santé mentale, mais c'est quelque chose qui est encore à construire, notamment sous l'angle de la promotion de la santé et de la prévention. Et ce dont on va parler aujourd'hui, avec des questions d'alimentation, de microbiote, d'axe cerveau-intestin, ça va aussi nous aider à construire cette brique avec une brique de promotion du bien-être, avec une brique de prise en charge des troubles psychiques. Ça va aussi nous aider à construire cette brique en fait du stade intermédiaire qui est celui auquel il faut s'intéresser le plus tôt possible pour éviter de rentrer dans un trouble, sachant que les troubles en santé mentale sont des troubles qui vont être très souvent être des troubles sévères et qui se chronicisent comme dans le cas de certaines maladies métaboliques ou immunitaires. Alors pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, je vais vous parler du lien entre alimentation et émotion. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous pensez qu'il y a un lien entre l'alimentation et les émotions? Je prends pas trop de risques sur ce genre de sondage. Et j'imagine que d'autres personnes doutent ou digèrent ou sont en hypoglycémie, donc faites attention à vous. Effectivement, il y a un lien entre alimentation et émotion. On s'en rend compte, ne serait-ce quand on voit notre évolution au fil de la journée. Ce qu'on a mangé ou le fait d'avoir besoin de manger va nous mettre dans certains états émotionnels, des états plutôt apathiques, on est éteint, on est un peu ralenti, des états plutôt agités, tendu, nerveux, parce qu'on a mangé pas assez bien, trop vite ou pas assez tôt. En fait, on voit qu'il y a vraiment un lien entre alimentation et émotion. Alors, je vais présenter rapidement le fruit d'un travail qu'on a fait avec des collègues, notamment parisiens, bordelais et américains, sur le concept d'alimentation émotionnelle et d'addiction alimentaire. Vous avez déjà entendu parler des addictions. Et vous savez qu'on peut être addict à un certain nombre de produits qui sont considérés comme étant des produits psychoactifs. Le premier que vous connaissez, le plus gros assassin, c'est l'alcool. Ah oui. Enfin, c'est l'alcool. Le tabac, le cannabis, dans les substances psychoactives, on va retrouver, vous l'avez dit, la caféine est un produit psychoactif. Il y a évidemment tout ce qui est dérivé des opioïdes et puis d'autres psychostimulants. On pourra parler de l'héroïne, de la cocaïne, des amphétamines. Vous voyez qu'il y a plein de choses. Et dans le champ des addictions, on s'intéresse de plus en plus à d'autres formes, peut-être, de stimulants. Et vous avez cité le sucre. Le sucre, c'est effectivement quelque chose qui est essentiel à notre survie, ça apporte de l'énergie. Alors, Il y a sucre et sucre. J'ai dit ça, j'ai rien dit, mais j'ai quand même dit un truc assez important, c'est qu'il y a différentes formes de sucre. Il y a des sucres rapides, il y a des sucres lents, il y a des sucres assez naturels, il y a des sucres transformés, si ce n'est pas d'ailleurs ultra, méga, giga transformés. Et tout cela, ça a un impact, pardon, sur potentiellement notre physiologie et à travers cela, sur notre régulation émotionnelle. Donc il y a une hypothèse qui est traitée, qui est très intéressante dans le champ de ce qu'on appelle l'addiction alimentaire et l'alimentation émotionnelle, c'est qu'on pourrait être addict, on pourrait être dépendant de l'alimentation, à la fois pour des aspects comportementaux, parce qu'évidemment on va plutôt rapprocher l'addiction à l'alimentation de l'addiction aux jeux de hasard et d'argent ou de l'addiction aux jeux vidéo, qui sont deux autres addictions comportementales, et d'ailleurs à ce jour les seules addictions comportementales reconnues, parce que c'est pas un produit qui le jeu vidéo ou le jeu de hasard et d'argent, le poker en ligne, les jeux de grattage, les jeux de paris sportifs, les pratiquer, c'est pas comme consommer de la cocaïne, de l'héroïne ou de l'alcool, hein, mais c'est par le comportement que l'on va s'auto-stimuler, générer du plaisir, parfois avoir des sensations qui ressemblent à du manque, essayer de réguler des affects négatifs par ces comportements. Ben on a à peu près la même chose, sauf que plutôt que de jouer à des jeux vidéo ou se mettre à jouer à des jeux d'argent, on va peut-être se mettre à manger. Mais la particularité dans ce concept, c'est que l'alimentation, c'est une substance. Et ça agit probablement plus que ce qu'on pouvait imaginer sur notre système en charge des addictions, qui est le circuit de la récompense. Les décharges de sucre vont jouer sur nos voies, notamment dopaminergiques, comme ce que l'on connaît dans le cadre, par exemple, de la consommation d'alcool ou d'autres psychostimulants. Alors, il y a le concept d'alimentation émotionnelle qui consiste à observer une variation de la consommation. Et cette variation de la consommation de nourriture, elle est fréquemment associée à la régulation d'émotions négatives. Vous avez peut-être remarqué que des états de stress, des états de frustration peuvent conduire certaines personnes, j'insiste, certaines personnes, tous semblables mais tous différents, donc il n'y a pas de voie unique, mais ça peut conduire certaines personnes à consommer davantage. Alors consommer davantage, oui mais quoi ? Eh bien, des aliments bien particuliers en lien avec l'état affectif. On parle de palatable food, le terme consacré en français c'est la nourriture doudou. Donc généralement, quand on va avoir des états d'affect négatifs, on est stressé, on est anxieux, on est plutôt triste, voire on peut être très clairement déprimé, on va aller chercher certaines nourritures qui sont réconfortantes. Elles sont réconfortantes pour différentes raisons, elles sont doudou pour différentes raisons. Leur teneur en sucre, leur aspect gras, leur facilité à consommer, parce qu'il ne s'agit pas, quand on a besoin de réguler une émotion, de dire « attends, dans deux heures c'est prêt ». Là, en fait, on a le temps de faire autre chose, hein, mais peut-être c'est intéressant à regarder, peut-être que ça peut être une voie vers d'autres problématiques comportementales, mais généralement, c'est quelque chose qui est très agréable, qui se consomme vite et facilement, et vous aurez compris que c'est pas dire « tiens, je vais m'éplucher des légumes, faire le cuir vapeur, d'ici deux heures c'est prêt », évidemment non. Alors, c'est notamment là qu'on va retrouver un choix préférentiel d'aliments qui sont ultra transformés. Et une hypothèse que l'on a traitée, que l'on a en partie bien étayée, c'est que le fait d'avoir des états affectifs particuliers, donc des états de détresse, je dis pas des dépressions, mais des détresses, de la frustration, de la tension qu'on peut toutes et tous avoir, et qui sont liés à des événements de vie, qui sont liés à la fatigue, qui peuvent être liés à des changements de saison, qui peuvent être liés à tout un ensemble de facteurs, va nous pousser à nous réconforter avec un certain type d'alimentation. On va avoir un bol alimentaire qui est assez particulier, cette fameuse nourriture doudou. Et il y a l'hypothèse que cette nourriture qui va nous servir à réguler nos émotions, eh bien, va déclencher un mécanisme qui peut appeler au grand principe de l'addiction, et voilà pourquoi on parle d'addiction alimentaire. Et dans l'ADN entre guillemets de ce qu'on appelle une addiction, il y a la notion de perte de contrôle, donc on a du mal à s'arrêter, c'est un besoin assez fort, voire qualifié parfois d'irrésistible, un excès d'autostimulation de plaisir, une lutte contre les affects négatifs, et parfois on peut avoir des états de manque, c'est-à-dire qu'on est particulièrement nerveux, irritable, et on met en place des stratégies pour retrouver ce qui va nous faire plaisir ou ce qui va nous soulager pour retrouver sa substance. Donc voilà pourquoi, de la même manière que certaines personnes peuvent se relever en pleine nuit, prendre leur voiture et faire un nombre de kilomètres pour trouver une station-service sur une aire d'autoroute pour acheter des cigarettes dans le cadre d'un besoin de consommer des cigarettes, voilà pourquoi certains peuvent faire pareil pour aller chercher un certain type de nourriture. Généralement, ce n'est pas des brocolis, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Alors attention, je le dis avec un peu d'humour et rapidement, mais sachez bien que là, ce que je décris, c'est pour certaines personnes. Tout le monde ne réagit pas comme ça. Certaines personnes peuvent avoir d'autres types de comportements qui vont justement être très sélectifs et aller chercher des types de nourriture très sains et avoir un contrôle très qualitatif en plus de quantitatif de leur alimentation. J'ouvre une parenthèse que je referme tout de suite, mais qui s'appelle l'orthorexie. C'est le fait d'avoir une obsession, un excès de vigilance et de préoccupation pour des aliments dits sains. Donc nous, ce qu'on a mis en évidence, c'est qu'il y avait une affectivité négative, des états de santé mentale qui pouvaient favoriser une alimentation émotionnelle. Donc vous avez compris que c'est manger certaines choses dans certains contextes. Ce type d'alimentation qui est particulièrement gras, sucré, enfin, vous avez compris, l'inverse des messages de prévention. Ni trop gras, ni trop salé, ni trop sucré. Donc l'inverse de ça. Souvent, ça surstimule notre système de récompense. Donc ça vient déclencher la répétition du comportement, donc ça conduit à la surconsommation. Par ailleurs, ce sont des aliments qui ont des pas très bonnes propriétés nutritives, c'est-à-dire que ça fait un pic glycémique, donc on a notre glycémie qui augmente. En face, l'organisme envoie de l'insuline pour réguler le taux de sucre dans le sang. Donc en fait, on a des choses qui déchargent du sucre plus vite que ce que notre organisme arrive à couvrir avec la sécrétion d'insuline, notamment par le pancréas. Et puis, une fois que l'insuline est là et elle a mis du temps à courir après ses excès de sucre, le sucre est éliminé, mais l'insuline est encore un peu là. Il y a un pic dans l'autre sens, il y a une chute, arrive l'hypoglycémie. L'hypoglycémie, généralement, ça envoie des signaux de faim. Voilà pourquoi, des fois, même manger beaucoup ne règle pas les choses, parce que ce sont des sucres, en fait, rapides. Là, ce que je suis en train de vous raconter, c'est aussi un mécanisme qui est bien connu pour expliquer l'apparition de certaines problématiques métaboliques, comme on le connaît dans le cadre du diabète de type 2. Et j'insiste bien ici sur le type 2. Alors, à force d'avoir des besoins répétés avec quelque chose qui est particulièrement réconfortant, particulièrement renforçateur, eh bien, ça prend trop de place, on perd le contrôle, et là, on serait dans une addiction alimentaire. Le petit sigle en bas, BMI, pardon, c'est la version anglo-saxonne de l'IMC, l'indice de masse corporelle. Donc, en fait, vous voyez qu'à partir d'états affectifs avec un type d'alimentation qui conduit à une addiction alimentaire, peut-être qu'on pourrait expliquer les états de surpoids, voire d'obésité. Et je vous disais que c'est une étude qu'on a faite notamment avec des collègues américains, chez qui, notamment Rachel Gerhardt, qui est une chercheuse pionnière dans le domaine, et c'est une vraie problématique parce qu'il y a ce qui pourrait s'apparenter à une épidémie, bien qu'il ne s'agisse pas d'un virus, mais une augmentation significative des cas d'obésité, voire de maladies métaboliques qui vont se traduire en diabète de type 2, en problématiques cardiovasculaires, chez des adolescents et des adolescentes aux États-Unis. Donc c'est particulièrement sérieux. Alors je vous fais pas un cours en tant que diabétologue, immunologiste, c'est une partie évidemment intéressante à regarder. Moi je vous invite à le regarder sous l'angle de la psychologie, sous l'angle des émotions et des comportements, en voyant qu'il y a probablement une clé très en amont de tout ça. Ça va nous amener à nous poser des questions sur les politiques de santé publique, sur les politiques de prévention que nous avons. Pourquoi aujourd'hui, certains éléments qui vont favoriser une alimentation émotionnelle, qui eux-mêmes favorisent une addiction alimentaire, pourquoi ces aliments sont particulièrement plus accessibles que d'autres? Pourquoi dans les distributeurs, même au sein de l'université au sein de laquelle je travaille et dans laquelle j'essaie de faire bouger certaines choses, pourquoi les distributeurs distribuent plutôt ce type de produit? Voilà, on ne citera pas de marque, mais je vois que vous avez quelques appétences. On a bien compris que c'est généralement pas des distributeurs de fruits et légumes que nous avons. Certaines universités ont fait le pari de les remplacer avec l'idée de ça marchera pas. Eh bien, ça a bien fonctionné. Hein, les entreprises au réapprovisionnement ont dû s'adapter. Donc ça peut être intéressant aussi de proposer autre chose. Si on propose rien d'autre, c'est problématique. Là aussi, j'ouvre une petite parenthèse, mais c'est à la fois des acteurs et actrices de la santé publique et en économie qui alertaient sur le fait que dans le cadre de la mise en place d'une protection contre l'inflation, quand on fait nos courses, qu'on a toutes et tous, je pense, bien perçu. Pourquoi les produits qui étaient protégés avec le bouclier anti-inflation, comme certains l'appelaient, pourquoi c'était pas forcément les produits aux meilleures propriétés nutritionnelles, hein. Se posent des vraies questions, certes de pouvoir d'achat, de porte-monnaie, et il faut les aborder, parce que quand on a des problèmes de pouvoir d'achat et de porte-monnaie, c'est jamais très bon pour la santé mentale non plus. Mais vous voyez qu'on peut s'y intéresser aussi à travers cette question de l'alimentation et de problématiques addictives et de dérégulation de l'humeur. Ce que l'on sait aussi, c'est que, bah, par exemple, être en situation de surpoids ou d'obésité peut augmenter l'inflammation de l'organisme. Donc ça va nous amener à être plus vulnérables à certaines pathologies, dont j'ai déjà pu parler. Et souvent, on a à l'esprit des pathologies métaboliques, comme certaines maladies cardiovasculaires, comme le diabète de type 2, évidemment comme les cancers. Mais il faut savoir qu'en fait, ces problématiques-là ont aussi un poids très important sur l'apparition de troubles psychiques. Et les troubles psychiques, notamment les troubles psychiques courants, dépression, anxiété, problématiques addictives, problématiques relationnelles et psychotiques, je pense par exemple à des troubles comme la schizophrénie, donc des troubles qui vont de 1 à quasiment 15% de la population, il faut savoir qu'aujourd'hui c'est le premier poste de l'assurance maladie en France. C'est plus important, ça coûte plus cher que les maladies cardiovasculaires ou que les cancers. Donc vous voyez qu'il y a aussi un intérêt à regarder l'impact de tout cela sur des indicateurs de santé mentale. Les états de santé mentale étant très importants à regarder pour leur impact sur notre capacité à développer des bons comportements, avoir des bons repères, des bonnes capacités mentales qui permettent de bien nous adapter, de faire les bons choix et qui nous permettent aussi d'être plus résistants à certaines maladies. Un élément que je vous inviterai peut-être à prendre en considération ici, c'est a-t-on encore un intérêt à dire santé physique ou somatique versus santé mentale ? En fait, tout ça est très lié et on a des mécanismes communs qu'on commence à un peu plus comprendre. Et ce qui nous permet de comprendre un peu plus ces mécanismes, bien, c'est aussi tout ce qu'on a découvert ces dernières années. On va le circonscrire autour des deux dernières décennies, autour du microbiote. Alors le microbiote, dont vous avez ici dans la banque d'images du CNRS une petite illustration. Donc là vous avez des cellules de l'intestin et tout ce qui pourrait ressembler à, d'ailleurs ça m'évoque, je dois avoir faim, des célèbres bonbons gélifiés. Il y a des collègues qui disent qu'on choisit pas ces sujets par hasard. Bon. Mais je me soigne. Vous voyez qu'en fait, tout ce qui est en fait coloré, c'est des bactéries qui colonisent l'intestin, et c'est ça qu'on appelle le microbiote. Alors, on a eu une révolution, on est passé de l'intestin comme étant un tuyau, la tuyauterie, avec pas trop d'intérêt pour ce truc, hein, à un deuxième cerveau. Ah, attention, le cerveau, c'est énorme, c'est noble, hein, on passe du bidou au cerveau, on est vraiment monté dans la hiérarchie de valeur des organes. Pourquoi on parle de deuxième cerveau ? Parce qu'en fait, il y a des cellules nerveuses dans tout l'organisme et il y en a un certain nombre, environ 500 millions de neurones, qui se situent au niveau de l'intestin. Il y a 100 000 milliards, donc j'ai bien fait attention à ne pas vous mettre tous les zéros, sinon j'aurais été incapable de redire le chiffre sans l'avoir appris par cœur. Énorme. Il y a 100 000 milliards de micro-organismes, ces petits organismes, ces petites bactéries, dans l'intestin grêle et le côlon. Et en ayant des travaux qui sont menés par les collègues spécialistes de la biologie, notamment du génome, menant des travaux autour du séquençage génomique de ces espèces microbiennes, on se rend compte qu'en fait, on ne les connaît pas toutes. On a identifié, oui, ça c'est des bactéries qu'on connaît. Tiens, celle-ci on s'y attendait, celle-ci on s'y attendait pas, et il y en a encore plein que l'on ne connaît pas encore. Alors je vais revenir sur quelques fondamentaux là aussi. Vous connaissez peut-être cette étude, une mouche drosophile, une mouche qui en fait a l'habitude d'aller chercher certains aliments. Eh bien, lorsque la mouche a un microbiote qui est modifié et qui ne correspond pas à son standard, la mouche va avoir un changement de comportement pour aller vers certains, ce qui va être pour elle certains aliments, qui vont lui permettre de compléter, de renforcer son microbiote qui est insuffisant parce que ce sont des mouches qui ont été par exemple conditionnées ou génétiquement modifiées. Donc là, à travers ça, on se rend compte qu'il y a des mouches qui ont des comportements alimentaires qui sont guidés par leur microbiote. Alors voilà, le microbiote pourrait-il prendre le contrôle des comportements de l'individu? Ça ferait des excellents sujets de science-fiction, mais ce n'est pas un sujet de science-fiction, c'est un sujet très sérieux aujourd'hui en science. On a appris au fil du temps à modéliser les choses, et pour le dire très simplement, là on n'est plus chez la mouche, mais on est sur l'être humain. On a dans le système digestif, notamment au niveau de l'intestin, un certain nombre d'organismes, ces bactéries intestinales. Ces bactéries intestinales, elles vont en fait jouer un rôle. C'est presque un orchestre qui chacun va avoir un rôle, une partie de partition, un morceau de partition, qui va être impliqué, par exemple, dans la réponse immunitaire, dans la sécrétion de certaines hormones, de certaines vitamines, qui vont, et puisque c'est le rôle des nutriments ensuite passer dans le sang, qui vont pouvoir circuler, qui vont pouvoir alimenter l'organisme, lui permettre d'être en bonne santé, et notamment ça va être très important pour le cerveau, et on se rend compte qu'il y aurait des voies directes de communication entre les neurones de l'encéphale et les neurones de l'intestin. Alors, si on résume un petit peu, les micro-organismes digestifs, ce fameux microbiote, pour autant qu'on arrive à correctement le quantifier, mais il représente à peu près 1,5 kg au sein de notre intestin. Vous voyez que c'est pas anodin. Ces micro-organismes, ils favorisent l'assimilation et la fermentation lorsqu'on se nourrit. Ils vont fournir des enzymes et ils vont participer à la production de vitamines. Ils vont optimiser des réactions physiologiques et participer au système immunitaire. Ils vont nous protéger des infections. Alors évidemment, toutes ces petites cellules, toutes ces bactéries, tous ces êtres vivants à l'intérieur du ventre, à l'intérieur de l'intestin, vont aider à vont stimuler le système immunitaire en premier lieu au niveau de l'intestin. Ils vont protéger l'intestin. Et vous voyez que des fois, on a des médicaments qui déséquilibrent ce microbiote. Jean-Yves parlait de flore intestinale. Il y a donc d'ailleurs des traitements parfois qui sont proposés pour rééquilibrer, pour réparer ce microbiote, cette flore intestinale, parce que sinon l'intestin, il va moins bien fonctionner, il peut être vulnérable à certaines maladies, à certaines infections et surinfections. Mais ce dont on se rend compte, c'est que ce microbiote, il travaille pour là où il est situé, pour l'intestin, entre guillemets, mais il travaille aussi pour la bonne santé immunitaire au niveau pulmonaire, au niveau du foie, au niveau du pancréas. Et puis plus la recherche avance, plus un certain intérêt réside dans ça en fait. Et trois petits points. Et d'autres choses. Et dans les autres choses, on se rend compte qu'il y a une part non négligeable en fait qui se situe au niveau du système nerveux central, au niveau du cerveau. Lorsque c'est déréglé, déséquilibré, il y a plein de raisons, on aura l'occasion d'en reparler, qui font que le microbiote peut être déséquilibré. Des stresseurs environnementaux, des stresseurs biochimiques, donc ça peut être autant des comportements que des agents bactériens toxiques, des infections, des complications à la naissance, la conséquence de certains traitements. Il y a plein d'éléments qui peuvent dérégler ce microbiote. Et chez certaines personnes qui ont par ailleurs une vulnérabilité, évidemment, c'est pas juste en changeant quelque chose dans le microbiote qu'on va se guérir ou prévenir toutes les maladies. Mais chez certaines personnes qui sont particulièrement vulnérables, on se rend compte que ce microbiote, quand il est perturbé, il favorise le syndrome de l'intestin irritable, les colopathies fonctionnelles, les rectocoliques hémorragiques, la maladie de Crohn, mais également la grippe, mais également le Covid-19, mais également cette fois-ci le diabète de type 1, qui est une maladie auto-immune qui n'a rien à voir avec le type 2 et qui est l'organisme qui se retourne contre lui-même et qui détruit les cellules qui produisent l'insuline. Donc on est en train de se rendre compte qu'en fait, il se passe beaucoup de choses au niveau de ce microbiote qui est à regarder de très près pour ce qu'il favorise comme maladie ou pour ce qu'il pourrait éviter comme maladie si on comprend mieux la vulnérabilité des gens. Évidemment, dans tout ce que je vous évoque là, et des collègues d'autres disciplines pourraient le dire avec un autre angle que le mien, mais avec tout ce qu'on évoque là, on se dit, tiens, il y a quelque chose du point de vue de l'innovation biomédicale, pharmacologique, on pourrait peut-être créer des nouvelles molécules qui renforcent le microbiote, etc., etc. Évidemment, évidemment. Mais il faut savoir aussi que là, ce dont on parle, c'est très en lien avec nos comportements, nos habitudes de vie, la manière dont on régule nos émotions. Et là, pour le coup, ben, ce dont il s'agit, c'est de changer nos habitudes, de changer nos comportements, et pas forcément de créer des nouveaux traitements. Hein, ce sont des choses sur lesquelles on peut agir directement à travers des environnements et des habitudes, des styles de vie. Alors le microbiote intestinal, il interagit avec notamment l'hormone somatotrope pour stimuler la croissance systémique d'individus, notamment de certains mammifères. Là aussi, on est dans les travaux fondamentaux dont vous avez peut-être déjà entendu parler. On a des souches de lactobacilles qui peuvent compenser des effets néfastes d'une sous-alimentation, notamment chez des souris, ça a été montré chez des souris axéniques, c'est-à-dire des souris qui sont nées sans stérilement et sans avoir eu un microbiote comparable aux autres souris, voire sans microbiote. Donc, en proposant certaines bactéries, il y a certaines souches qui vont favoriser le développement du microbiote chez ces petits mammifères. Ce développement du microbiote va aider l'organisme à produire des hormones qui vont aider à grandir, qui vont aider à ce que la croissance ait lieu, et peuvent donc rattraper des retards de croissance. On a aussi vu des souris qui étaient obèses versus des souris non obèses. On a prélevé du microbiote à travers des greffes de matière fécale. Donc on a prélevé du matériel intestinal chez des souris obèses. On les a mis chez des souris non obèses. Les souris non obèses ont développé une obésité. Donc on voit qu'il se passe quelque chose à travers ce microbiote implanté sur la manière dont fonctionne l'organisme. On a fait la même chose sur la question de la dépression. Alors évidemment, il est difficile de demander à une souris comment elle se sent aujourd'hui, est-ce qu'elle a des idées suicidaires, est-ce qu'elle est plus ou moins motivée qu'avant. Par contre, on voit qu'il y a des comportements fondamentaux, non-verbaux, qui font qu'on est plutôt intéressé, motivé, curieux, ou au contraire, replié et dans une rupture de contact, des aspects qu'on qualifierait d'apathie et d'anédonie, donc perte de plaisir, de motivation et d'engagement dans des tâches. Alors là, ça c'est quand même assez impressionnant. Il s'agissait de transplanter du matériel humain chez des souris, donc du matériel intestinal d'humains qui présentent des dépressions, chez des souris qui ne sont absolument pas en état de dépression, chez des souris qui n'ont pas de microbiote ou pas de microbiote particulier. Et les comportements des souris qui ont reçu des cellules du microbiote humain déprimé se sont mis à avoir des comportements qui font penser à la dépression. Donc, ce qui se passe dans notre intestin est probablement beaucoup plus guide de nos états, de nos réactions, de nos interactions, que ce que l'on pouvait imaginer. Voilà. Alors, si je résume un petit peu ce qui se passe, et j'arrive à quasiment à la fin de cette présentation, si j'arrive un petit peu ici à résumer ce qui se passe en termes de mécanique globale, pour parler d'immunopsychologie, d'immunopsychiatrie, de psychonutrition et tout ce lien entre alimentation et fonctionnement des individus, on peut retirer ça, notamment des travaux de Chevalier, qui est un chercheur français dans le domaine. Plus le stress est élevé et chronique, donc on va parler entre guillemets du mauvais stress, hein, celui qui fait qu'on est dans des états inconfortables et durables, plus l'organisme va produire du cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, et cette hormone du stress, elle est impliquée dans notre réaction inflammatoire. D'ailleurs, sachez qu'elle fait monter la glycémie. Plus on produit du cortisol, qui maintient une inflammation, et cette inflammation que nous avons au niveau de l'intestin va perturber le microbiote, va venir fragiliser la flore intestinale, et avec Autre phénomène, avec cette flore intestinale qui est perturbée, il y a une biodiversité intestinale qui est moindre. En fait, on se retrouve avec aussi un organe qui est l'intestin, qui n'est plus suffisamment imperméable. Il devient perméable, c'est-à-dire qu'il laisse passer des choses dans le sang. Il peut laisser passer des maladies, des bactéries, qui ne posent pas spécialement de problème quand elles sont dans l'intestin, qui peuvent poser un peu plus de problèmes quand elles sont en dehors de l'intestin. Il va aussi laisser passer certaines hormones. Il va en fait aider à la propagation de l'inflammation. Et par les mécanismes circulatoires, cela va venir impacter notamment le système nerveux, le cerveau. Et ce cerveau qui est en état d'inflammation lié à des problèmes de biodiversité et de perméabilité intestinale, eh bien ce cerveau en état d'inflammation est plus à risque de développer des troubles psychiques ou des troubles neurodéveloppementaux. Les pathologies qui sont étudiées, alors on est aux prémices de tout ça, mais c'est le trouble dépressif. Et ça pourrait concerner 8 à 15% de la population. Ça peut concerner certains troubles anxieux. Ça peut concerner des troubles psychotiques type schizophrénie. Ça peut concerner des troubles bipolaires. Ça peut concerner certains troubles neurodéveloppementaux comme l'autisme et le TDAH. Alors attention, avec des greffes de microbiote, on ne va pas soigner la dépression, l'autisme, etc. Mais on peut renforcer des mécanismes immunitaires et diminuer des inflammations. Et quand ça a été testé, eh bien on s'est rendu compte que les niveaux de symptômes, les niveaux de détresse, les niveaux d'inadaptation des individus, qu'ils soient petits rats ou êtres humains, eh bien étaient améliorés. Donc il y a des vraies pistes d'amélioration des états de santé. Et si on arrive à comprendre celles et ceux qui sont plus vulnérables à une perturbation de la biodiversité intestinale, celles et ceux qui sont plus vulnérables à un défaut de perméabilité de l'intestin et plus vulnérables à des inflammations, eh bien peut-être qu'on pourrait les protéger en amont. Alors je vous ai parlé de psychonutrition, message important, la psychonutrition ce n'est absolument pas un régime. Ce n'est pas ce qui nous permet d'être très sexy et affûté sur la plage cet été ou bien plus musclé et très résistant sur les pistes de ski quand il reste de la neige. Non, c'est plus que ça, c'est absolument pas un régime, c'est quelque chose qui consiste à étudier les conditions d'alimentation sur la santé, autant physique que mentale, et ça consiste à agir sur des déterminants de santé que sont l'alimentation et les conséquences de l'alimentation, quand elle est bonne et moins bonne, pour prévenir ou améliorer des états pathologiques. Alors, dans les styles de vie, notamment des styles de vie qui vont être avec une alimentation déséquilibrée, très souvent associée à une diminution de l'activité physique, on parle de sédentarité, on va retrouver une inflammation de la santé mentale. Pourquoi ? Parce qu'on parle d'une inflammation causée par l'alimentation ou alimentation inflammatoire. Et l'alimentation inflammatoire, ce sont les produits ultra transformés gras et sucrés, ce sont les produits pauvres en fibres et qui sont assez riches en sel, et ce sont aussi des produits qui sont malheureusement contaminés par un certain nombre de produits toxiques, de pesticides ou de métaux lourds. L'inflammation provoquée par l'alimentation peut dégrader la santé mentale. Dans une étude notamment Mathison et collaborateurs, on aurait une augmentation du risque suicidaire de 33% liée à une alimentation qui est déséquilibrée. Alors, réponse à une alimentation inflammatoire, une alimentation anti-inflammatoire qui protégerait la santé mentale parce qu'elle viendrait préserver le microbiote. Qu'est-ce qu'est une alimentation anti-inflammatoire? L'alimentation dite méditerranéenne. Et là, on retrouve des éléments que l'on connaît autour d'une espérance de vie ou des présentations de taux de maladies chroniques qui sont moins importants dans certaines populations, notamment certaines populations qui ont un régime méditerranéen. Par exemple, certains territoires de la Grèce ou de l'Italie sont suivis de très près pour ça. Alors il n'y a pas que l'alimentation méditerranéenne, parce qu'il y a aussi par exemple au Japon une alimentation qui est plus riche en oméga 3 et sur certaines fibres qui a priori protégeraient. Alimentation enrichie en légumes, comparativement, il manque un bout de la phrase, désolé, à une alimentation qui présente un excès de viande et notamment de viande rouge. Je crois que dans les moyennes nationales, je ne sais pas si quelqu'un a des chiffres plus précis que les miens, mais je crois qu'on est aux alentours. Par semaine, je crois qu'on est aux alentours d'1,5 kg, 2 kg de viande alors que pour ne pas être dans une posture d'inflammation, il faudrait ne pas dépasser les 500 grammes. Alors je vous invite à regarder par exemple ce que sont aussi par exemple les cantines, les restaurants collectifs et voir dans quelle mesure ils correspondent aussi à ces aimants-là. Et une alimentation enrichie aux fruits pour les fibres, pour le type de sucre qu'ils proposent et pour les vitamines. Voilà. Chez des personnes vulnérables, une piste à travers la psychonutrition serait celle de proposer des compléments alimentaires pour alimenter, sans mauvais jeu de mots, et renforcer le microbiote. Ça consiste en une administration de fibres végétales et de prébiotiques, donc des éléments qui vont permettre de nourrir, entre guillemets, les bactéries présentes. Donc les prébiotiques, c'est des fibres. Ingérer des probiotiques, enfin, vous avez tous déjà entendu parler de l'ultra-levure, par exemple. Et vous avez peut-être tous déjà vu, à bon coup de marketing au demeurant, des producteurs de yaourts qui vous disent « ça c'est un yaourt ». Alors ils parlent de bien-être, ils parlent pas de santé, ils ont compris qu'ils pouvaient pas vendre ça comme un médicament. Mais avec certaines souches de bactéries qui sont normalement bonnes, alors même si quand on regarde c'est toujours mieux que rien, mais c'est souvent mal compensé parce que c'est avec du lait de vache qui est particulièrement inflammatoire, on est dans une surconsommation des laits de vache, et puis c'est sur des doses qui ne permettent pas de rééquilibrer autant. Les oméga 3 sont très importants, notamment avec des équilibres qui sont à regarder en fonction de l'EPA et DHA. Et là, on a un gros problème, c'est que les oméga 3, très souvent, on les trouve dans quel aliment ? Le poisson. Et les poissons sont malheureusement très souvent, aujourd'hui, des poissons d'élevage contaminés par des métaux lourds, ou alors vont suivre des circuits de production qui font que quand ils sont dans notre assiette, ils ont perdu leur teneur en oméga. Donc on ne mange plus que les cochonneries qu'il y a dedans. Donc il faut manger des poissons, certains poissons gras, à circuit court, dans une certaine proportion, et trouver des oméga 3, et cela on peut les trouver, malheureusement pas dans toutes les pharmacies, dans des extraits végétaux. Et ça permettrait de limiter la gravité d'infection, renforcer le système immunitaire, protéger de la dégradation d'état de santé mentale pour des personnes qui ont déjà des troubles de santé mentale, de prévenir leur apparition chez celles et ceux qui n'en ont pas. Et là, de récents travaux s'intéressaient aussi à l'impact de cela d'un point de vue du point de vue des maladies neurodégénératives. Il y a des pistes intéressantes, notamment autour de la démence de type Alzheimer, qui sont étudiées. La démence de type Alzheimer étant notamment associée à la création de plaques, les plaques bêta-amyloïdes, qui ne sont pas sans lien avec l'inflammation et probablement des éléments de style de vie. Pour terminer, si vous voulez aller plus loin, vous connaissez peut-être ce livre-là, Le charme discret de l'intestin, qui a participé à réhabiliter l'intestin comme étant un organe noble, écrite par Julia Enders, une gastro-entérologue. Et puis plus récemment, vous avez un chouette psychiatre, enseignant-chercheur marseillais, Guillaume Font, qu'on ne désespère pas d'inviter à Chambéry, un de ces quatre, qui a écrit « Bien manger pour ne plus déprimer » en clin d'œil à « Méditer pour ne plus déprimer » de Christophe André, et qui, dans cet ouvrage-là, qui doit dater de 2022, je crois, propose un état des lieux, des connaissances sur les aspects inflammatoires, les compléments alimentaires, l'évaluation des différents régimes sur des indicateurs de santé et physique et mental. Et ça a l'avantage d'être, je trouve, assez bien écrit et accessible au grand public si vous voulez aller plus loin. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Et je suis à votre disposition si vous avez des questions.
Merci infiniment Arnaud pour cette présentation extrêmement éclairante. Il nous reste après un petit quart d'heure pour des échanges. Donc on va profiter encore de que tu sois là. Qui veut poser la première question
Bonjour, merci pour cette présentation. J'ai deux questions. Vous avez parlé d'extraits végétaux pour les oméga 3. Est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus de quels extraits végétaux il s'agit ? Et deuxième question, vous avez parlé de souris, je ne sais plus le terme. Je voulais savoir si au niveau de l'humain, il y a eu des études et il était constaté pour les enfants nés par césarienne des tendances à la dépression ou à d'autres troubles.
Alors deux choses, je ne me risquerai pas au nom, mais ce sont pour les oméga 3 végétaux, ils sont dérivés d'algues. Ils sont dérivés d'algues. Et donc, en fait, vous pouvez voir si vous trouvez des compléments alimentaires, des oméga-3, on va vous dire les différents types d'oméga-3 qui les composent. On va vous dire qu'ils sont de source végétale. Donc, il y a souvent aussi ce côté gluten-free, vegan, compatible, etc. Mais faut bien regarder ces dérivés d'algues pour avoir des oméga 3 végétaux du coup. Oui, vous avez cité la question en clin d'œil peut-être aux souris qui donc le terme consacré c'est axénique. Ça c'est débattu. En fait, on sait que le microbiote de l'être humain va être particulièrement influencé par la colonisation des sécrétions fécales et vaginales lors de l'accouchement. Donc l'accouchement par voie naturelle favorise. Voilà. Et on constate en fait que les enfants nés autrement, dont vous avez cité la césarienne, vont avoir une colonisation qui n'est pas tout à fait la même. Et il y a une hypothèse que cela viendrait façonner différemment leur système immunitaire et ça peut conduire à certains éléments de vulnérabilité. Mais c'est assez discuté, notamment sur ce qui peut être fait, parce que certains essais proposaient en fait pour des enfants qui étaient nés par césarienne de les exposer à des sécrétions vaginales et fécales de la maman avec des petites compresses pour qu'ils puissent, comme s'ils étaient nés par voie naturelle, être colonisés notamment par la bouche. Ça a pas l'air très probant, donc c'est peut-être encore quelque chose qui est à regarder de plus près pour essayer de compenser cela. En m'intéressant une fois à la thématique du microbiote et de l'accouchement, je suis tombé sur quelque chose qui avait rien à voir et qui pourtant est assez lié. Le microbiote, c'est donc plein de micro-organismes qu'on a dans notre intestin, mais on en a partout, on en a aussi sur notre peau. Et on parlait, en fait, des chercheurs émettaient l'hypothèse d'une colonisation du microbiote sur la surface de la peau des parents avec les bébés lorsqu'on fait du contact, lorsqu'on fait du peau à peau. Ça participerait aussi. Donc si ça c'est une hypothèse qui est à retenir, je suis très prudent parce qu'on est très en amont d'éléments qui pourraient être des pratiques de parentage, des pratiques de en maternité, etc. Mais donc je vais rester prudent, mais ça nous dit qu'on pourrait avoir plusieurs stratégies pour faire en sorte que les individus qui sont peut-être moins outillés d'un point de vue microbiote par certaines conditions. Ça peut être certaines maladies, ça peut être certaines voies d'accouchement, eh bien puissent essayer de compenser ça. Voilà. Mais il y a des éléments qui sont en faveur de, par exemple, d'un peu plus de difficultés à prendre du poids ou d'être plus vulnérable à des maladies inflammatoires chez des enfants qui sont nés par césarienne. Et la pièce du puzzle dans tout ça serait peut-être cette moindre colonisation parce qu'il n'y a pas eu l'accouchement par les voies basses naturelles. Mais attention, vous trouverez plein de gens qui ont des problématiques en étant nés par les voies dites traditionnelles et des gens qui sont inversement en extrêmement bonne santé en étant nés par césarienne. Donc évitons de culpabiliser un peu plus les parents. Un message de psychologue, s'il vous plaît.
On sait que la prise d'antibiotiques a un impact sur le microbiote.
Oui.
Et je voulais savoir s'il y avait des études de fait sur les générations, notamment 70, nées dans les années 70 et 80, qui ont été nourries aux antibiotiques. Est-ce qu'il y a eu des études de fait sur ces générations?
Alors, il peut y avoir deux éléments importants dans votre question, dont je ne suis absolument pas un spécialiste, mais c'est des éléments qu'on peut retrouver dans la littérature à laquelle on s'intéresse ici. Donc, je vais être très prudent. Mais il y a deux grandes problématiques. Il y a effectivement la problématique des antibiotiques qui sont néfastes parce que leur but c'est de détruire des éléments biologiques et à un moment des constituants du microbiote vont être la cible des antibiotiques. Donc voilà pourquoi il est important de rétablir une flore intestinale. Je disais ça de manière pas si anecdotique que ça, mais l'ultra-levure, qui parfois est préconisée de manière systématique par des médecins ou par les pharmaciens, c'est quelque chose de très très important. Attention, si vous avez une fragilité immunitaire très particulière, il faut manipuler ce truc aussi simple, aussi courant que l'ultra-levure, avec beaucoup de précautions. on doit faire très très attention, notamment chez des personnes immunodéprimées, ça peut avoir des conséquences importantes. Donc il y a cet élément là, donc on sait qu'il y a des effets néfastes. Il y a évidemment une question qui va être soulevée dans la littérature, qui est celle du développement de l'antibiorésistance. Et est-ce qu'il y a un lien entre la dégradation des microbiotes et ces antibiorésistances? Les bactéries s'adaptent, mais est-ce que les organismes aussi, eux, ne seraient pas devenus pas suffisamment équipés en lien avec leurs microbiotes? C'est des choses qui sont absolument pas tranchées, mais qui sont à étudier de très près. Donc ça veut dire qu'il faut avoir vraiment à l'esprit ce slogan qui est plus des années 90, je crois. On prend des petits coups de vieux, mais les antibiotiques... Ah, voilà, parfait. Vous avez votre diplôme de santé publique. Mais ouais.
Oui, bonjour. Je voulais savoir, est-ce que chaque partie de l'intestin a son microbiote particulier? Auquel cas, quand il y a des intolérances qui se créent, si on enlève une partie d'intestin, voilà.
Alors, j'ai pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a probablement pas de répartition homogène, mais j'ai pas notion de territoire de l'intestin. Et si c'est le cas, je suis pas sûr que ce soit une cartographie à laquelle on pourrait tous se retrouver. Il y a probablement quand même des aspects un peu territoriaux comme ça, notamment liés en fait à certaines phases de la digestion et à des endroits où on a peut-être plus certaines bactéries qui agissent sur tel stade de la dégradation, la production d'enzymes, etc. Mais là, pour le coup, il faudrait vraiment en parler avec des immunologistes ou des gastro-entérologues spécialistes, mais vraiment spécialistes du domaine, et qui, à mon avis, auraient une réponse encore assez très théorique par rapport à ça. Tout ça est vraiment un champ assez important, le lien alimentation santé mentale, addiction alimentaire, microbiote, axe cerveau intestin, tout ça c'est extrêmement récent, hein. Ça a refaçonné d'ailleurs un certain nombre d'éléments d'immunologie, hein. Donc ce qui est bien, c'est qu'on pourrait refaire ce café science, et cette fois-ci en plus avec Sonia, ce qui serait une autre vision, celle de la physiologiste, et même dans un an, deux ans, avoir déjà des réponses à des questions ou des zones d'ombre qui se lèvent, mais attendez-vous aussi à ça, des nouvelles questions qui sont posées.
Je peux me permettre une deuxième question. Vous avez parlé d'oméga 3 à base de végétaux, mais est-ce que le krill, par exemple, est intéressant ou il est déjà pollué, ou moins bon à base de poissons
En fait, aujourd'hui, et je ne sais plus qui rappelait ça, mais je me demande si ce n'est pas Guillaume Font, qui a eu une tribune lors d'un dernier grand congrès de psychiatrie, il y a quelques mois, psychiatrie santé mentale. Mais en fait, on voit qu'on a plus du tout de production de poissons qui sont à même de nourrir suffisamment la population en oméga 3. Tout comme on a, par notre alimentation et nos styles de vie, des carences, notamment en certaines vitamines, et la vitamine D est souvent mise en évidence, qui sont très importantes. Alors, il y a des choses qui sont planétaires, des choses qui sont plutôt continentales. En Europe, on est particulièrement carencé. Et d'ailleurs, certains se posent la question, pourquoi on a l'impression que la supplémentation en vitamine D, c'est simplement du ressort des pédiatres? Alors que c'est probablement pour toutes et tous, parce que je crois que quand on n'a pas plus d'un certain nombre d'heures par jour et d'une certaine surface de notre corps qui est exposée, donc en gros vous avez compris qu'en ce moment il y a moins de soleil, qu'on ne va pas forcément être torse nu, place des éléphants, pour des raisons de convention sociale, mais aussi pour des questions de lutte contre le froid. Donc en fait, on n'arrive pas à bénéficier, à synthétiser comme on le devrait, comme on y parvient à d'autres saisons, donc on aurait un intérêt à être supplémenté. Et c'est le cas de certaines vitamines, et c'est le cas aussi des oméga 3 et aussi du rapport avec d'autres oméga qui sont les 6 et 9. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite vraiment à aller regarder l'ouvrage peut-être de Guillaume Font, Alors c'est beaucoup utilisé par les soignants, mais ça peut être utilisé par le grand public. Faites-le bien, peut-être en lien avec vos médecins ou pharmaciens, mais vous avez des annexes qui indiquent les dosages en fonction des besoins des personnes. Donc c'est voilà. Mais aujourd'hui, même avec un certain nombre d'arguments scientifiques importants, méfions-nous des arguments d'autorité, mais dans certaines publications que je vous ai présentées, il y a des Nature Neuroscience, il y a le Graal de la publication scientifique. Alors, attention, des fois, il y a des choses. C'est pas parce que c'est dans des très beaux journaux que c'est forcément mieux. C'est pas parce que votre voiture est d'une certaine marque et qu'elle a coûté un certain prix qu'elle roule mieux en ville que d'autres. Ou qu'elle pollue moins. Hein. Vous voyez, il faut faire attention à ces arguments d'autorité, entre guillemets. Mais même si on a des éléments très forts au niveau scientifique et dans une partie de la communauté scientifique qui les publie dans les meilleurs journaux scientifiques, ça a beaucoup de mal à transférer vers les pratiques professionnelles. Quoi. Ou alors avec encore beaucoup de pratiques qui ne sont pas forcément très fondées. Par exemple, il y a un grand débat sur... certaines vitamines, autour de la vitamine C, probablement qu'on en donne trop ou pas la bonne ou pas aux bonnes personnes, alors que d'autres vitamines auxquelles on ne pense pas, elles seraient vraiment nécessaires à supplémenter. Il y a des grands débats autour aussi du magnésium. Voilà, donc je vous invite vraiment à aussi essayer de trouver des ressources par vous-même et peut-être des professionnels, sachant que c'est plutôt la bonne nouvelle, de plus en plus de professionnels se forment à la psychonutrition.
Bonjour. À propos des probiotiques, est-ce qu'il y a des questionnements sur leur administration, soit leur efficacité, soit leurs effets éventuellement secondaires?
Alors, il y a quelques. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a. Ils sont encore pas très nombreux, mais on a une belle augmentation en fait d'études cliniques qui vont chercher à voir l'effet de l'administration de certains probiotiques. Par rapport à des personnes qui ne reçoivent pas un probiotique, c'est des probiotiques, et quel est l'effet, alors à la fois sur des déclenchements de maladies, sur certains symptômes, sur des marqueurs inflammatoires. Donc il y a quelques études qui existent et qui sont à la fois hyper intéressantes et un petit peu frustrantes parce qu'elles n'apportent pas de réponse claire, et souvent enfin, moi je trouve qu'elles amènent à cet élément de réponse là. C'est que il y a une telle diversité de bactéries, vous avez vu le nombre qu'on a évoqué tout à l'heure, en lien avec une telle diversité de profils physiologiques immunitaires chez les personnes, qu'en fait il faut trouver les bonnes combinaisons. Et quand les bonnes combinaisons sont trouvées, sur les profils de bactéries, les profils de personnes, il y a toute la question des doses. Et peut avoir la question éventuellement d'effets indésirables. Et puis des effets indésirables peuvent être à court terme, mais pas beaucoup, pas se maintenir à moyen long terme, d'autres pourraient intervenir plus tard. Et comme tout ça, c'est encore assez balbutiement, on n'en sait pas encore grand chose. Néanmoins, il devrait être proposé d'ici quelques mois des nouvelles formules de probiotiques qui permettraient d'être sûr que l'on a les meilleurs candidats dans les meilleures quantités. Il y a quelques laboratoires qui commencent à s'intéresser à cela et qui vont notamment être associés à des pathologies dont on a parlé. Type maladie de Crohn, type diabète de type 1, mais aussi des maladies du grand champ neuropsychiatrique, comme pourraient l'être les dépressions ou les troubles neurodéveloppementaux. Mais là, pour le coup, je pense que pour avoir plus d'éléments, il faut se revoir dans quelques mois.
Le temps est compté sur cette pause méridienne. Je sais qu'en plus tu as des engagements tout de suite après, donc peut-être on va terminer sur un mot de la fin ou en tout cas un message qu'on pourrait nous emporter à l'issue de cette rencontre.
Je suis pas de la région, mais dans l'Ain, il y avait quelqu'un qui s'appelait je ne sais plus comment. Ça vous rend quelque chose? Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Voilà, ça c'est local, messieurs, dames. Y a un peu de ça dans l'idée, au-delà de la formule, au-delà de la punchline, il y a quelque chose dans l'idée. Ce que l'on mange, nos comportements, notre sédentarité va nous façonner. Et puis n'oubliez pas qu'il n'y a pas un facteur magique, mais c'est déjà souvent des choses qui répondent à une temporalité assez longue, même si je crois que sur certaines supplémentations en oméga 3, il y a des effets qui peuvent être assez rapides, de l'ordre de 15 jours, donc ça c'est aussi quelque chose à regarder d'assez près. Mais en tout cas, c'est pas en prenant un petit cachet en disant eh, c'est bon, là j'ai écouté la conférence à Eureka, je vais aller me faire un bon saumon, vous savez. Ça suffit pas. Faut pas non plus en avoir en excès, parce que, à nouveau, je crois que c'est notamment les thons qui sont concernés par des métaux lourds. Donc, faut faire très très attention. Donc, soyez prudents, mais ayez cette vigilance à vos styles de vie, parce que je vais rebondir sur ta formule. Le message à emporter, c'est que la clé n'est absolument pas magique et réside en nous, comme on nous fait un peu croire. Dans des choses qui relèvent plus du charlatanisme, mais une certaine part expliquée de ce qui nous aide à aller mieux réside dans nos styles de vie, dans nos comportements. Voilà. Et autant on n'est pas des chercheurs et chercheuses qualifiés en pharmacologie pour, derrière des éprouvettes, créer des traitements de demain, on n'est pas là pour modifier des microbiotes et faire des greffes chez des individus, c'est des choses qui se pense à certains endroits, avec aussi des questions éthiques, quand on voit l'impact des greffes de microbiote, avec la création de banques de microbiote pour faire des greffes derrière. Mais clairement, ce sur quoi on peut agir, c'est notre alimentation et nos styles de vie, pour réduire l'inflammation. Voilà, donc le régime méditerranéen, l'huile d'olive, certaines noix, certains poissons et de plus en plus des supplémentations. Ce qui devrait bouger, même si ça dépend beaucoup de choses qui sont un peu dans l'actualité, les budgets de sécurité sociale, les choses comme ça. Mais si à terme, parce que c'est une proposition qui a été faite, si à terme, dans le cadre de ce qu'on appelle les parcours et les bilans prévention, on pouvait avoir des bilans sur les carences qui existent sur certaines vitamines, mais aussi sur certains marqueurs d'inflammation, eh bien très clairement, on pourrait aussi rentrer dans quelque chose qui est encore clairement à construire, qui est une médecine, une santé, vous appelez ça comme vous voulez, une prise en charge à la fois préventive et individualisée. On pourrait dire, tiens, bah, pour toi c'est de l'oméga 3, pour toi c'est plutôt de la vitamine D, pour toi c'est tel type d'oméga 3 et pas tel autre, etc. etc. Mais voilà, évidemment, les quelques médecins et laboratoires qui pratiquent ça, et j'ai pas notion de beaucoup dans la région, même s'il y en a quelques-uns, déjà vous expliqueront que, par exemple, c'est hors remboursement, ça fait pas partie des actes qui peuvent être pris en charge. Je vous invite à lire ou écouter Guillaume Font ou bien Benjamin Roland avec deux L à Lyon, qui s'intéresse aussi à ces éléments-là, et ce sont deux collègues qui sont psychiatres. Donc psychiatres et qui s'intéressent aux aspects immunitaires et inflammatoires. Ils ont l'avantage d'être sympas et parler en français. Donc ça peut aussi aider à diffuser ces messages-là avec leur prisme à eux. Voilà.
Merci infiniment.
Bon appétit. Carré.
Bonne fête. Et d'avoir accepté au pied levé l'invitation. Et on se donne un bon rétablissement à Sonia Pellissier. Pour information, le prochain Café des Bars aura lieu l'année prochaine et nous intéresserons au mystère des trous noirs et de la matière noire. Non, pardon, on s'intéressera au mystère de la matière noire. Merci. Et pendant les vacances, eh bien, la galerie Eureka reste ouverte ainsi que l'expo sur Mars. Donc, bonne fête de fin d'année si on n'a pas l'occasion de se revoir. Au revoir.